Hey, avant de démarrer ce nouvel épisode, il faut que je vous présente ma nouvelle application Sport Science Test. Saviez-vous que pour mesurer la puissance, les équations que nous utilisons obtiennent 2% d'écart de précision avec des plateformes de force ? Saviez-vous que l'algorithme de Sport Science Test permettait simplement en filmant le mouvement de savoir quels muscles étirer ou renforcer pour l'optimiser ? Que vous pouviez tester l'endurance de dizaines de joueurs à la fois sans jamais vous tromper ? Et ce n'est qu'un tout petit aperçu de ce que sait faire Sport Science Test pour seulement 99€ par an et de toute la science et la méthodologie que nous avons mise dedans avec les équipes ABD Digital. Alors n'attendez surtout pas pour la tester, car l'essai est gratuit. Bon épisode à tous.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode ABD Podcast. Aujourd'hui, nous allons parler d'un secret d'entraîneur pour prendre des bonnes décisions, bien monitorer le travail que vous effectuez et surtout démarrer comme il faut votre préparation. L'analyse morpho-anatomique, c'est maintenant. Mais avant de démarrer, abonnez-vous pour nous soutenir, likez, commentez quand vous en avez la possibilité, parce que là, je pense que vous allez avoir des questions à poser à mon invité. Une nouvelle fois, je reçois Rudy Koya. Rudy, merci de nous rejoindre.
Merci à toi encore une fois de l'invitation. C'est toujours un plaisir d'échanger avec des entraîneurs de longue date qui ont de l'expérience, qui continuent de s'entraîner dans un monde, comme tout le monde le sait, où tous ceux qui donnent des conseils, car beaucoup de ceux qui donnent des conseils aujourd'hui, ne s'entraînent pas. Ils sont experts de la théorie et pas du terrain.
Et tu sais à quel point ça m'énerve. Alors, je suis super content de te recevoir. À chaque fois que tu viens, j'apprends plein de trucs. C'est vrai que non seulement tu pratiques, mais tu t'instruis aussi. Tu t'exposes, tu échanges énormément en ligne. Les gens qui, d'ailleurs, ne te connaissent pas peuvent simplement googler ton nom et ils vont vite comprendre l'étendue de ton univers, notamment dans Superphysique, mais pas seulement, puisque effectivement, dès que tu en as l'occasion, tu partages. Et je t'en remercie. Trois clés aujourd'hui, trois clés pour bien comprendre cette analyse morpho-anatomique, cette prise en main du client, de l'athlète, du patient, qui va permettre derrière de gagner du temps, de prendre des bonnes décisions et encore une fois de répondre à la question fondamentale de quoi réellement mon athlète, la personne dont j'ai la charge, est-elle capable ? Avant de se lancer sur des méthodes d'entraînement qu'on a apprises, qu'on a testées sur soi-même, parfois validées, qu'est-ce qui va me permettre de prendre telle ou telle décision en fonction de tel ou tel objectif ? Eh bien, il faut des outils d'analyse et l'analyse morpho-anatomique en fait partie.
Oui, alors c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on est vraiment dans, pour moi, la suranalyse avec les data. On cherche vraiment à tout mesurer. C'est à tel point qu'on oublie de regarder avec ses yeux ce qui se passe sur le terrain. Moi, j'ai l'impression que tout est devenu très théorique. Et je suis très surpris parce que ça fait maintenant plus de 10 ans que j'ai écrit mon premier livre qui parle d'analyse morpho-anatomique et que ce ne soit pas autant démocratisé que ça, que ça reste encore assez confidentiel. Alors que concrètement, comme on l'a vu avec les élèves en CQP aujourd'hui, ça permet tout de suite. Alors bien sûr, il faut développer son regard, il faut apprendre à regarder, mais c'est l'expérience, c'est le terrain, c'est,
bah oui,
c'est
oui.
L'entraînement. Car bon, ça me paraît simple. Mais tu peux apprendre à prédire, à voir les prédispositions d'un individu, quelles vont être ses faiblesses par rapport à ses longueurs osseuses, ses longueurs musculaires, sa souplesse, sa mobilité. On va y revenir un peu plus en détail. Et pour moi, qui sont la base de l'entraînement en tout cas personnalisé, parce que comme tu l'as dit, les méthodologies d'entraînement, tu prends presque n'importe quel livre aux éditions notamment Fortrainer, tu vois, qui en sort régulièrement. Notamment le dernier de mon pote John qui vient de sortir, là, que vous m'avez donné, qui a l'air de bien résumer les choses.
Le coaching ultime.
Voilà. Je pense qu'on aurait dû mettre un autre titre, mais ça, c'est une autre aparté. Mais le bouquin est beaucoup plus complet que ça.
Et la baseline, c'est les clés de l'individualisation.
Voilà, les clés de l'individualisation. Voilà.
C'est surtout un livre d'individualisation. Et justement, cette analyse individuelle du corps de votre client, c'est la base de l'individualisation.
Voilà, et ce qu'on veut savoir donc, avec l'analyse morpho-anatomique, c'est, comme tu l'as dit, de quoi est capable la personne que je vais entraîner. Quelles vont être ses forces, quelles vont être ses faiblesses pour justement choisir les bons exercices pour elle. On sort du dogme de l'exercice indispensable pour tous, exécuté de la même façon pour tous, et que si on n'y arrive pas, c'est pas normal et il faut forcer ça. La réalité, c'est qu'avec l'expérience, ce que j'ai malheureusement appris, et ce qu'on apprend tous, c'est qu'on ne peut pas forcer sa nature. Un poisson, ce ne sera jamais un sprinteur sur piste. un éléphant, il ne sera jamais dans les airs. Ou alors, je ne sais pas par quoi il est porté. Mais, et donc, on distingue trois choses. La première, c'est l'analyse des longueurs osseuses, c'est-à-dire quelle est la longueur de mes segments et quelles sont surtout les proportions entre elles. Donc, on analyse, je le fais rapidement, parce que ça nécessite 2 jours de formation en CQP et 2 jours parce qu'on le fait un peu en accéléré et sans doute qu'on le fera un peu plus longtemps.
C'est dense. Ouais. Voilà. Et beaucoup de pratique.
Bah, oui, parce qu'en fait, c'est ça aussi. Pour ça que je dis que rien ne remplace le réel et les formations réelles, donc je dérive un petit peu. Parce que même s'il y a des formations vidéo que j'ai pu faire, des livres sur le sujet, rien ne remplace de voir des gens côte à côte, de se comparer, de voir à quoi
plein
ça correspond.
Plein de cas de figure différents, exactement.
Donc, longueur osseuse, je reviens sur le sujet. Donc, l'analyse des proportions entre les différents membres. Donc, ça va être la longueur de bras. Est-ce que j'ai des bras longs, par exemple? Est-ce que ma longueur de bras dépasse ma taille? Quelle est mon envergure? Donc, évidemment, ça, c'est un peu faussé par la longueur des clavicules, qui va déterminer si on est large d'épaule ou pas. Et cette envergure, elle est déterminante. On sait que dans certains sports, je me souviens dans le bouquin Le gène du sport de Epstein, qu'en basket, en NBA, si tu n'as pas une envergure d'au moins plus 13 ou plus 15, donc si tu fais 2 mètres et que tu as au moins 2 mètres 15 d'envergure, la NBA, c'est presque terminé. Alors, il y a toujours l'exception qui
confirme la règle.
Voilà, il y a toujours ça. Mais c'est le cas. Moi, je sais qu'en kayak, en Hongrie, ils vont dans les écoles, ils vont mesurer. Ils disent, voilà, toi, tu fais du kayak, toi, t'en fais pas. En aviron, si on regarde, souvent, les Français sont assez bons. C'est souvent des gens qui ont des longs bras, des longues jambes. Il faut de l'amplitude. Donc ça, c'est assez déterminant. Donc, longueur de clavicule, longueur de bras, notamment le rapport aussi humérus avant-bras. La longueur des côtes, est-ce que j'ai de la cage thoracique ou pas? La cage thoracique, c'est en voie de disparition. Alors, je ne sais pas, on a à peu près le même âge, Aurélien. Mais quand on était gamin, on voyait souvent des vieux, tu sais, avec des gros coffres, des grosses cages thoraciques.
Et
aujourd'hui, moi, je vois beaucoup de jeunes, donc comme j'interviens dans les CQP, dans les BPGEPS, et que je coach toujours sur le terrain, la cage thoracique, c'est en voie de disparition. Sans doute dû au manque d'activité physique quand tu es enfant, qu'on avait beaucoup plus qu'auparavant, au manque d'activité dure qui essouffle. Moi, je me souviens, Jean Texier, dans les guides pratiques du bodybuilding, qui montrait Milliard Williamson, qui enchaînait des séries de 20 au squat avec du pullover, et il faisait ça tous les 2 jours, et à la fin, il arrivait à mettre un verre sur sa cage thoracique. C'était vraiment la folie. C'est aussi le ratio buste-bas du corps. Des gens vont avoir un buste plus long, entre guillemets, en proportion des jambes que d'autres. Donc, on n'a jamais le buste plus long que le bas du corps, mais en proportion, il peut être plus ou moins long. Et ça, ça va jouer forcément. Plus j'ai le buste long, plus je vais avoir besoin de renforcer toute cette zone abdominale lombaire parce que mon levier est beaucoup plus important. Et puis, il y a également la longueur des jambes, des cuisses-jambes. Est-ce que j'ai un long fémur, pas de long fémur? Et c'est là qu'on se rend compte, avec toute cette analyse de longueur osseuse, qu'en fait, on est déjà prédéterminé.
Ouais, à la fin, on est des leviers, des poulies. Et ces leviers, ces poulies, il faut bien comprendre que c'est comme ça, c'est un fait. Il faut l'accepter. On ne va pas pouvoir le corriger, on ne va pas scier un fémur. Donc la personne, elle s'est adaptée à ça toute sa vie. Du coup, elle a créé un profil. Vous allez continuer à vous adapter à ça. Si vous forcez dans une méthodologie qui n'est pas adaptée à la personne, ben vous vous trompez. Tu prenais les exemples des sports. Il faut arrêter de croire et de raconter que la musculation ou la gymnastique rend petit. Pas plus que le volet ne rend grand, que je sois clair. En fait, les grands sont les fers du volet et les petits sont à faire de la gymnastique. Eh bien, la réalité, elle est beaucoup plus fine que ça, puisqu'au milieu des grands, y a des gens qui ont des segments différents, qui ont des proportions osseuses différentes et qui vont être donc prédisposés à certaines tâches motrices plutôt qu'à d'autres, à certaines formes de squat plutôt qu'à d'autres, à certaines formes de soulevé de terre plutôt qu'à d'autres. Et donc, au moment où vous êtes face à votre manuel d'exercice infini, là où il y a, aujourd'hui, c'est même plus un manuel, c'est YouTube, où vous avez des millions d'options, des millions de possibilités, quand vous allez choisir, qu'est-ce qui va faire? Vous allez choisir tel ou tel exercice pour telle ou telle personne. Eh bien, cette analyse-là va vous aider à prendre ces décisions-là et à individualiser le programme intelligemment.
Dans un précédent épisode qui était hyper intéressant, que tu as fait avec Lilian.
Ouais, Lilian Lacourpaille.
Justement, c'était un peu cette idée que chaque personne va s'organiser pour recruter un muscle ou un groupe musculaire au détriment d'un autre par rapport à ses préférences. Et en fait, ses longueurs osseuses, elles jouent. En fait, tout part d'une règle physiologique de base qui s'appelle la relation tension-longueur, qui dit qu'en fait, nos muscles, je le fais simple, ont une longueur de repos qui est une longueur optimale, souvent c'est indiqué LO dans les livres de physiologie, et que plus on s'éloigne de cette position de force, et bah, moins on peut en exprimer et plus on se trouve dans une zone de faiblesse. Et le but, c'est de ne pas se retrouver dans une zone de faiblesse quand on force, parce que si on force dans une zone de faiblesse, je vais prendre un exemple au développé couché, si on regarde les meilleurs au développé couché, c'est des personnes qui, lorsqu'elles vont toucher la barre avec les pectoraux, en fait, elles vont avoir le bras à peu près à 90 degrés. Donc là, leur grand pectoral n'est pas trop étiré, en haut, il n'est pas trop raccourci, et elles peuvent exprimer beaucoup de force, elles peuvent mettre lourd, et elles vont se développer beaucoup plus facilement. Si à l'inverse, vous avez la cage thoracique plutôt plate, donc des côtes assez courtes, des bras très longs en proportion, vous allez avoir, en exagérant, les deux coudes qui se touchent dans le dos quand la barre va toucher vos pectoraux. Et donc là, vos pectoraux vont être tellement étirés, vos deltoïdes antérieurs tellement étirés, vous êtes dans une position telle de faiblesse que vous n'allez avoir aucune force et vous avez de grandes chances, un, de rien développer, de vous blesser et vous allez à l'encontre de vous parce que votre système nerveux, en fait, va dire là, c'est pas possible, c'est l'encontre de vous. Et ces longueurs osseuses, en fait, permettent vraiment de dire quelle amplitude je peux utiliser de base, en dehors de ce qui vient ensuite, à savoir l'analyse musculaire. L'analyse des longueurs musculaires, c'est assez simple à comprendre. C'est plus un muscle est long, donc on va prendre l'exemple très simple du biceps. Si vous contractez votre biceps, vous allez voir que votre biceps va plus ou moins loin sur votre bras jusqu'à votre avant-bras. Donc vous le contractez et il y a un doigt, deux doigts, trois doigts. Et donc plus il va aller proche de votre avant-bras en le contractant, plus il y a de muscles à développer, plus il y a de potentiel musculaire. À l'inverse, plus il est loin, moins il y a de potentiel. Et plus cette longueur de repos, cette longueur optimale, encore une fois de relation de tension-longueur, va être courte. Plus vous allez avoir une amplitude courte de travail, on le voit assez bien, on l'a vu avec les élèves en CQP tout à l'heure et on va le revoir demain plus en pratique. On voit que quand on fait un curl pour les biceps, une flexion de coude, il y a un moment où le biceps, en fonction de sa longueur, ne va plus s'allonger. Donc en fonction des individus, on va plus ou moins tendre le bras quand on fait des vraies séries effectives. Quand on s'échauffe, c'est important d'avoir, c'est en général ce que je conseille, d'essayer de garder son amplitude, une certaine souplesse, une certaine mobilité. Mais on a tous une amplitude dans laquelle on va pouvoir exprimer de la force et on va réduire son risque de blessure. Et ça, on va analyser tous les muscles visibles. Aussi, ça va aller des trapèzes aux mollets. Et on va s'apercevoir que des fois, il y a des muscles qui n'ont pas de potentiel. Parce qu'il faut aussi savoir que quand tu fais, pour reprendre ce que disait Lilian, quand tu fais un exercice polyarticulaire, c'est une compétition de recrutement entre les différents muscles qui participent. Alors on pourrait croire, je reprends le développé couché, que tu as les pectoraux, les épaules, les triceps qui participent de concert, 33%.
Dans la synergie, tout le monde dans la bonne humeur. Pas du tout. Voilà. C'est un sport individuel, la synergie musculaire.
Bien sûr. En fait, c'est de l'isolation. En fait, on ne s'en rend pas compte. Et en fonction des individus, donc en fonction de comment s'insère votre avant d'épaule, s'il est plus ou moins oblique sur la clavicule, de comment votre grand pectoral est large et descend sur votre torse, de comment est votre triceps, il y a un gagnant. Il y a un grand gagnant parmi tout ça. Donc moi, par exemple, quand je fais développé couché, c'est toujours les pecs. C'est les pecs. Donc j'ai de la chance pour ça. Mais à l'inverse, pour les épaules et les triceps, ça veut dire que je dois faire un travail à côté, optimisé pour développer mes épaules, ce que j'ai fait pendant des années, mes triceps. Et à l'inverse, il y a des gens qui vont faire développé couché, qui vont se retrouver dans une position de faiblesse, d'une part leur longueur osseuse, mais également musculaire. Ils vont être, moi j'appelle ça le surétirement. Et dans ce cas-là, le développé couché, va falloir adapter l'amplitude, va falloir peut-être changer de mouvement, va falloir trouver un angle où les pectoraux peuvent se contracter, si c'est votre but de développer les pectoraux, pour réduire énormément le risque de blessure. Sinon, en fait, encore une fois, vous allez contre nature.
Oui. Peut-être plus de progressivité aussi, un petit peu plus de temps dans le développement sur certains angles qui n'ont jamais été développés parce que du coup dans notre pratique on s'est structuré autour de nos points forts et beaucoup plus rarement autour de nos points faibles. Ça nous rappelle aussi que l'entraînement fonctionnel tel qu'il est poussé en avant depuis une quinzaine d'années dans du mouvement complet, polyarticulaire, quasi exclusif, poussé par des grandes franchises de l'entraînement fonctionnel, on peut évidemment citer le CrossFit, a ses limites. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quelqu'un qui pousse fort, c'est quelqu'un qui est fort en triceps, en deltoïdes et en pectoraux. Fin d'histoire. Et donc, cette combinaison de maillons ne fonctionnera que si tout le monde est utilisé à sa juste efficacité. Et donc, à un moment donné, oui, faire de l'analytique intelligent, évidemment, pas le même pour tout le monde, pas du bodybuilding aveugle juste pour de la gonflex, c'est pas ce qu'on est en train de dire. Si on veut rester dans le transfert de force, eh bien, c'est un travail ciblé, analytique, d'hypertrophie intelligente, en fait, rationnelle.
On peut appeler ça de l'hypertrophie fonctionnelle. Exactement. Dans le cas de la performance, c'est vraiment... Et on le voit. Donc là, il n'y a pas d'image et voilà, ça m'a cité la journée pour faire l'introduction sur le sujet. Mais on voit directement quand quelqu'un bouge, comment ils s'organisent et qu'est-ce qu'ils travaillent. Et on voit à différentes angulations, à différentes amplitudes, que là, je reprends les développés couchés, là c'est le grand pectoral, là c'est l'épaule, là c'est plus le triceps. Et donc tu peux individualiser comme ça, en fonction de ce que je veux travailler, en fonction de ce que je veux renforcer, ce qui se passe. Mais c'est vrai que c'est, je trouve, hyper intéressant. Après, il faut dire aussi que les personnes les plus fortes, là tu parlais du crossfit, on en parlait aussi aujourd'hui, c'est que souvent, si tu vois les meilleurs, c'est ceux qui ont tous les muscles longs pratiquement. Ils sont...
Il y a un format, bien sûr.
Bien sûr, ce sont des hybrides d'un point de vue osseux aussi. Ils n'ont pas d'inconvénients. Alors que la plupart des gens vont avoir des inconvénients. Il y a des inconvénients pour se développer, pour exercer certains mouvements, mais qui vont être des avantages pour autre chose. Je cite souvent ce que j'avais vu dans Sport et Vie. Ils avaient comparé le coût énergétique entre des Kenyans et des Danois au niveau de leurs mollets. Et puis ils avaient dit, bah, les Kenyans, ils n'ont pas de mollets, donc forcément, leur coût énergétique est moindre, et donc ils peuvent continuer plus longtemps. Et les Danois qui ont des plus gros mollets, bah voilà. Alors si tu veux des gros mollets, bah, mieux vaut être Danois. Mais si tu veux courir longtemps et vite, bah, mieux vaut avoir des mollets de Kenyans. Donc c'est pour ça que aujourd'hui, la musculation s'est beaucoup démocratisée et il y a beaucoup de personnes qui s'y sont mis. Ça fait plus de 20 ans que j'ai découvert la muscu. C'est tellement peu populaire qu'il n'y avait que des gens assez doués qui faisaient. Il y avait très peu de personnes qui n'étaient pas faites pour. Et plus que jamais aujourd'hui, notamment si vous êtes coach, c'est un peu le message que je veux faire passer, je pense que c'est vraiment important d'affiner son œil, d'apprendre à analyser. Parce qu'il y a plein de personnes qui se mettent à la musculation pour la santé. C'est le fameux sport santé dont on parlait. Qui ne cherchent pas forcément la performance. Et pour eux, c'est vraiment important cette individualisation. Vraiment de voir qu'est-ce qu'elle est capable de faire la personne. Et ça, c'est le troisième point. C'est qu'à partir de là, comme c'est une histoire de longueur optimale, de longueur osseuse, musculaire, dans quelle position je vais me retrouver pour faire tel ou tel mouvement, c'est quelle souplesse vais-je avoir besoin pour faire tel exercice ? Quelle mobilité ? Alors on rappelle des basiques. La souplesse, c'est passif. Nous, ce qui nous intéresse pour ne pas nous blesser, c'est la mobilité. Mais dans la mobilité, il y a la souplesse. Et donc si je n'ai pas déjà l'amplitude passive pour aller quelque part et que c'est un poids qui m'emmène, bah ça, c'est la blessure qui va vite arriver. Alors, si on est jeune, voilà, on se régénère de tout. On connaît l'histoire. Si vous êtes un peu plus vieux, on se régénère moins. Et si vous êtes très vieux, bah, vous ne régénérez pas. Et quand vous êtes blessé, vous avez toujours des séquelles. Aurel pourrait en parler avec son mollet qui s'est arraché. À 40 ans, ça ne revient pas. Il aurait eu peut-être eu 20 ans, les séquelles auraient été moindres, il serait régénéré. Et donc, c'est pour ça que le but, ensuite, en tant que coach, si vous avez, je prends un exemple, quelqu'un qui veut faire des compétitions de force athlétique ou faire de l'haltéro et qui a priori n'est pas fait pour, c'est de travailler sur ces zones de faiblesse et d'agrandir entre guillemets cette zone de force qu'on appelle la longueur optimale en travaillant, en donnant plus de capacité de mouvement à la personne, plus de souplesse, plus de capacité à produire de la force aussi, de la mobilité, dans des amplitudes qui ne sont pas celles où normalement je devrais avoir de la force. Et donc c'est pour ça qu'il faut tout mettre en rapport. Alors bien sûr, aujourd'hui il y a tout ce débat sur les étirements et ce que je disais tout à l'heure, c'est on entend partout, je crois que tu as fait un truc récemment mais je ne l'ai pas regardé encore, sur les étirements où les gens ils disent, il ne faut pas s'étirer avant la séance, après on perd de l'explosivité, on perd de la force, c'est pas bon. La question c'est plutôt, de quoi ai-je besoin pour pouvoir faire mon mouvement en étant plus sécuritaire et en diminuant mon risque de blessure, parce que le premier but de l'entraînement c'est que ça fasse du bien. Donc si j'ai besoin de faire un étirement, de gagner de l'amplitude de manière passive pour ensuite travailler ma génération de force à cette nouvelle amplitude pour pouvoir faire mon mouvement sur le moyen et long terme de manière plus sécuritaire, j'ai tout intérêt à m'étirer avant. Bien sûr, si je n'ai pas besoin, ça a moins de sens. Mais si j'en ai besoin, et après, on ne va pas réinventer la roue, ce n'est pas compliqué. On fait des étirements passifs, on gagne de l'amplitude et il suffit de travailler ensuite à générer de la force sur ces nouvelles amplitudes. Alors, on pourrait rentrer dans plus de détails, mais pour la plupart des gens, ça reste assez simpliste. Mais ce que j'aimerais surtout faire passer aussi, c'est que Fred de la Vie le dit souvent et ça me fait sourire parce que c'est un truc que j'ai lu dans le bouquin Facile d'Olivier Pourriol. C'est pas quand on veut qu'on peut, c'est quand on peut qu'on veut. Et des fois on s'acharne quand on n'apprend pas à analyser les gens, quand on utilise des datas qui sont pour moi décorrélées du terrain, qui sont pas la base. On dit tu fais ça, puis ça devrait bien se passer. Mais il y a des gens, ils ne feront jamais un beau squat de toute leur vie. Je donnais l'exemple de la gouttière bicipitale. C'est pareil, il y avait un élève qui avait des questions là-dessus. Il y a des gens qui ont la gouttière du long biceps qui peut être très, très, très étroite de base. Et en fait, dès qu'ils vont essayer de mettre le coude en arrière, par exemple faire des dips ou même descendre le coude plus bas que 90 de développé couché, ça va les irriter tout de suite. Dans le bouquin Milo des éditions Fort Trainer, qui, moi je trouve, est un super bouquin. Et tu m'as dit que.
Rebuilding Milo,
c'est ça ? Voilà, voilà, qui se vendait pas super bien. Moi je trouve que c'est un super bouquin.
Ouais, pour moi, c'est pas validé à sa juste valeur. Ouais,
pour moi, il est vraiment super. Et dedans, donc je vais pas écorcher son nom, mais Scott University, il montre les différences articulaires, pas toutes, mais certaines, entre les individus, ta hanche plus ou moins antériorisée, postériorisée, latéralisée. Et donc on est très loin du dogme de. Si tu veux être un guerrier, il faut absolument que tu fasses ça. Pour beaucoup de gens aujourd'hui qui sont mis à la musculation dans un objectif de santé, essayer de faire comme tout le monde, comme le champion, sans tenir compte de tout ça, c'est comment se détruire très facilement. Parce que l'anatomie, c'est pas une science exacte. On a eu tendance à la généraliser pour l'enseigner, et c'est normal. Il faut bien généraliser les choses au début pour avoir des bases, comme la méthodologie d'entraînement, voilà, comme faire du 10x10 pour l'hypertrophie. C'est une base. Après, on peut aller plus loin et en débattre. Mais l'anatomie, c'est pas une science exacte. Et on voit bien, quand on analyse d'individus, des grosses différences, vraiment des différences énormes entre les longueurs de bras, et on n'a même pas parlé des particularités anatomiques que sont le valgus, est-ce que j'ai un varum au niveau des genoux, est-ce que j'ai un récurvatum, est-ce que je suis hyperpronateur, hypersupinateur, comment sont mes pieds. On a vu tout à l'heure un jeune Tristan, il n'a pas de voûte plantaire, il a les pieds. Il dit quand je cours, ça, je m'affaisse, ben oui, il n'a pas de pied.
Ouais.
Donc... pour moi, c'est vraiment...
C'est vrai qu'une erreur fondamentale théorique, c'est évidemment, personne n'a eu l'occasion de disséquer qui que ce soit. Enfin, j'espère pas trop parmi vous. Mais la réalité, c'est que ce qu'on représente dans des manuels d'anatomie, comme de la science exacte, comme tu le dis, comme de la science dure, n'est en réalité qu'une interprétation artistique. Et il ne faut pas l'oublier. Et effectivement... moi, pour avoir beaucoup traîné pour mes ouvrages avec Gano, notamment dans les écoles dans les écoles des Beaux-Arts à Paris ou à Saint-Pétersbourg, qui sont des grands lieux d'anatomie, hein, où il y a vraiment des salles de dissection, c'est vraiment très très lié au dessin, l'anatomie. Et ben là, on se rend compte de la variété interindividuelle et ensuite de l'interprétation qu'en fait l'artiste, qui va délivrer une représentation qui ne vaut que ce qu'elle vaut. Donc, ne croyez que vos yeux. Regardez, observez. Il y a une première couche de muscles au moins que vous pouvez voir. Il y en a auxquels on n'a pas accès, évidemment. Il va falloir les deviner. Il va falloir les tester peut-être plus en force et dans le mouvement. Mais pour quand même toute une grande quantité de gros muscles moteurs, on arrive à déterminer leur proportion, leur longueur, leur activation, simplement à l'œil nu, en bougeant.
Bien sûr, et quand tu bouges, pareil, c'est difficile. Là, on est à l'audio, donc on ne voit pas, mais quand tu vois quelqu'un faire un squat, tu vois avec quoi il pousse.
Bien sûr.
Tu vas voir s'il utilise ses fessiers, s'il utilise ses quadriceps. Alors, dans le manuel, on va te dire, ça fait ça, ça, ça. Il y a des gens, ça ne fait pas ça. Il y a des gens, ça fait autre chose. Il y a des gens, ils font du curl, par exemple, pour les biceps, et en fait, ils prennent tout dans les avant-bras, parce que le corps est intelligent aussi. En général, si tu n'es pas fait pour un muscle, tu as un levier défavorable, il va essayer de compenser ailleurs. Donc, si j'ai le biceps court, par exemple, souvent, ce qui se passe, c'est que j'ai le long supinateur, ce qu'on appelle le brachioradial maintenant, qui va être long. J'ai les fléchisseurs du poignet qui vont être longs. Donc, quand je vais faire des curls, si je veux prendre des biceps ou renforcer ma flexion de coude, je vais surtout utiliser mes avant-bras. Et donc, dans ce cas-là, si vous avez quelqu'un qui vient vous voir et qui vous dit « Voilà, moi, je vais reprendre du biceps, j'y arrive pas, qu'il y a des gros avant-bras », la question va être « Comment je désactive au maximum ces avant-bras, ces muscles des avant-bras en tout cas, pour faire ces biceps ?» Ou quelqu'un qui prendrait tout dans les fessiers en squat et qui dirait « Moi, j'aimerais prendre des quadriceps, comment je peux faire ?» Alors, il va falloir réfléchir à quel exercice utiliser.
Est-ce que le squat est le bon exercice? Si oui, comment je l'aménage pour qu'on suractive mes quadriceps?
Exactement. Ou alors, cas aussi de rechange. Si je ne peux pas faire de squat finalement parce que ça ne me fait pas les quadriceps, quoi que je fasse, quel exercice je fais? Quelle variante je fais de l'exercice? Donc, plein de petits tests, en fait. Et... aujourd'hui, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il y avait des technologies de MG portatif qui commençaient à se développer. Mais à l'œil nu, il n'y a même pas besoin d'appareil. Ça se voit.
Bien sûr.
Ça se voit tout de suite. Moi, je vais souvent faire le test pour les pecs aussi au développé pour trouver la bonne angulation. Un des problèmes récurrents en musculation, c'est j'aimerais avoir du haut des pectoraux, du faisceau claviculaire. Ce n'est pas compliqué. Vous mettez votre bras devant vous. Vous montez le bras doucement et à un moment, vous allez voir que votre épaule, votre deltoïde antérieur, il prend l'ascendant sur le pec. Et en fonction des individus, il y en a qui vont avoir de la chance. Souvent, c'est ceux qui ne sont pas trop faits pour le deltoïde antérieur, qui est très rectiligne sur la clavicule. ils vont monter le bras et puis le pec, l'autre pec se contracte, et super. Et il y en a d'autres, bah, même quand ils sont position développée couchée,
ouais.
Voilà, bah, en fait, ils sont déjà sur l'épaule. Donc eux, en fait, ils sont dans une angulation de style dips pour faire les pecs, et sinon, ils sont à fond deltoïde. Alors après, il faut réfléchir comment je désactive les deltoïdes. Et là, on se dit pour le haut de pec, et c'est aussi, c'est pas être fataliste, mais c'est la réalité, c'est mort. c'est mort, comme pour certains muscles, comme le grand dorsal. Ouais. Si ça sert de manière très rectiligne sur votre bras, vous n'aurez jamais le dos large. Mais ça, c'est peut-être pour ça aussi que ça a du mal à se démocratiser, l'analyse morpho-anatomique. En plus, bah voilà, d'avoir besoin d'être sur le terrain, comme aujourd'hui, on a quand même beaucoup, beaucoup de théoriciens du net qui ne s'entraînent pas et qui sont spécialistes de tout. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas parce qu'en fait, c'est un discours, effectivement, pour moi, plutôt réaliste où la nature, de toute façon, va toujours se rappeler à nous. Et tu peux forcer autant que tu veux. Tu as des préférences motrices. Avant, on disait voilà, les préférences motrices, c'était aérien, terrien, associé, dissocié, tout ça. Avec tout le travail de Ralph Hippolyte ou concurrent, collègue Volodalen. Mais il y a aussi comment mon corps s'organise pour que je puisse réaliser le mouvement en fonction de mes longueurs osseuses, de mes longueurs musculaires. Et nous, la seule chose sur laquelle on peut jouer, c'est les amplitudes et cette capacité de mouvement, souplesse, mobilité, pour essayer de compenser ça.
Ah, hyper intéressant. On va rappeler les trois clés de l'analyse morpho-anatomique. J'espère que ça vous aura donné envie de regarder d'un petit peu plus près les athlètes dont vous avez la charge. La première clé sont les segments osseux, hein, les leviers eux-mêmes. Observez bien, mesurez-les, pourquoi pas, comparez-les, regardez plusieurs personnes différentes. Achetez le livre de Rudy qui est paru il y a déjà un petit moment. Tu nous rappelles le titre ?
Là où j'en parle, c'est le guide de la musculation naturelle. Après,
c'était déjà il y a 10 ans celui-là ?
Moi, je l'ai écrit en 2015, il a dû sortir en 2017. Tu connais les gens ? Après, ceux qui sont plus intéressés là-dessus, je pense qu'il y a deux choses, je fais l'instant promo, mais. Pour aller plus loin, il y a le tome 1 et le tome 2 de la méthode Superphysique, donc avec des vidéos d'analyse morpho-anatomique de vraies personnes, vraiment très détaillées, comme on a fait. Et je pense que le plus intéressant, c'est ce qu'on fait là au CQP, il faut le dire, c'est le faire en vrai. Vraiment le faire en vrai, ouais. On prend notre temps pendant... Là, sur 2 jours, ça va être ça. Je pense que comme j'ai 2 fois 2 jours, la prochaine fois, on refera encore un petit rappel avant de voir bah, ensuite comment construire le programme en fonction de sa morpho-anatomie. Voilà, je pense que c'est...
Bon, vous avez compris le message de Rudy. Hein. Venez nous voir au CQP à Paris. Effectivement, en présentiel, c'est toujours plus formateur. Donc, clé numéro une, les leviers osseux. Clé numéro 2, la configuration musculaire, hyper important. Évidemment, elles sont toutes les deux liées, ces deux clés. Et puis, clé numéro 3, la mobilité. C'est vrai qu'on a mis un petit tacle au CrossFit tout à l'heure. On va rééquilibrer un petit peu, puisque c'est les premiers à dire mobility first.
Bien sûr, avec Kelly Starrett, qui a quand même beaucoup... Même s'il s'est fait cracher dessus après, moi, je trouve que ses bouquins...
Ils ont apporté énormément de choses.
Je pense que lui a vraiment beaucoup, beaucoup démocratisé les choses. C'est super. Pour moi, c'est une des bibles. Même si, voilà, on est moins sur de l'actif et plus sur du passif.
Néanmoins.
Ça reste, encore une fois, si je n'ai pas la capacité passive d'aller dans une amplitude... Ça va être compliqué de l'avoir activement. Donc, ouais. Il la faut déjà. Et ensuite, il faut que je renforce cette amplitude pour l'intégrer. Bref, on ne va pas trop rentrer dans les détails. Et à partir de là, bah, vous pourrez mesurer d'autres data si vous intéressez. Mais rien que ça, déjà, vous permet de personnaliser un programme.
De prendre de bonnes décisions et d'individualiser. Exactement. Écoute, c'est super. Vous pouvez suivre Rudy hein, sur, je vous l'ai dit, hein, sur bon, principalement son site Superphysique, évidemment, incontournable. Mais il est aussi actif sur les différents réseaux, notamment sur YouTube. Vous nous avez suivi sur un de ces réseaux, justement. Alors, si vous voulez nous soutenir, eh bien, vous likez, vous partagez, vous commentez. N'hésitez pas, on sera content de discuter avec vous. Rudy, tu reviens quand tu veux. C'est toujours un grand plaisir.
Bah, je reviens bientôt, alors.
Eh bien, génial. Et à très bientôt pour un nouvel épisode ABD Podcast.
Salut tout le monde.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.